Il est 23h30 à Paris, une heure de moins en temps universel.
Afrique Soir.
L'actualité africaine avec Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clotilde Dumay. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'infos africaines, progression rapide des combattants du M23 soutenus par le Rwanda dans l'est de la RDC sur le front du Sud Kivu. Le président Félix Tshisekedi dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda. Nous l'entendrons dès le début de ce journal. Le conflit en RDC était au centre justement d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité, le CPS de l'Union africaine, ce soir à Addis Abeba. Une réunion dans un climat particulièrement tendu, nous serons en direct. Le verdict du procès en appel des auteurs de l'attentat de Grand Bassam, perpétuité confirmée pour 4 accusés reconnus coupables de complicité d'assassinat et actes terroristes. Et puis un rapport sur la tragédie survenue le 1er décembre au stade de Nzérékoré, capitale de la Guinée forestière, bousculade meurtrière lors d'un tournoi de foot.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Le M23 soutenu par le Rwanda progresse donc rapidement dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC, alors que des éléments de ce mouvement étaient signalés à l'aéroport de Kavumu à la mi-journée. Une source gouvernementale congolaise a reconnu qu'ils sont apparus en début de soirée à Bukavu, une trentaine de kilomètres plus au sud. Alors comment Bukavu a vécu cette avancée du M23? Le récit de Patient Ligodi.
La progression de l'AFC M23 a été fulgurante à Kavumu et les affrontements signalés plus tôt dans les environs ont cessé à la mi-journée. À Bukavu, l'impact a été immédiat, une ville paralysée qui ressemblait à une ville morte. Selon des témoignages concordants, commerce, école, boutique, tout a été fermé dans la précipitation. Dans l'après-midi, la circulation était quasi inexistante, les habitants rentraient à pied. Quelques tirs sporadiques ont été entendus dans certains quartiers et depuis Munich, où il participait à une conférence internationale. Félix Tshisekedi n'a pas commenté directement les derniers développements sur le terrain, mais il reste catégorique. Pas de négociation avec l'AFC M23. Pour lui, ce groupe armé n'est qu'un paravent que le Rwanda met en avant. Mais derrière, c'est bien l'armée rwandaise qui mène les combats. Le président congolais va plus loin et accuse directement son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être impliqué dans l'opposition armée. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila, mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions, a-t-il dit.
Et face à cette rapide progression sur le terrain, le président Félix Tshisekedi a écourté son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. La présidence a annoncé dans la foulée qu'il ne se rendra plus au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba comme initialement prévu. Plus tôt dans la journée, le président congolais a dénoncé les velléités expansionnistes du Rwanda dans son pays. Il s'exprimait lors d'une intervention à la conférence de Munich sur la sécurité. Pour lui, il est urgent d'agir.
Aujourd'hui, nous n'attendons plus de simples mots. Nous exigeons des actions décisives. Le statu quo est une illusion. Ne rien faire, c'est déjà choisir. Et ce choix, s'il perdure, aura des répercussions bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Car si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos.
Voilà les mots du président Félix Tshisekedi, alors que la situation dans l'est de son pays était justement au cœur de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ce soir à Addis Abeba. Le président Félix Tshisekedi était représenté par sa première ministre. Florence Maurice, vous êtes à Addis Abeba où la conférence de presse annoncée à l'issue de la rencontre a été annulée et le communiqué final n'a pas encore été rendu public. La réunion, je le disais, s'est tenue dans un climat particulièrement tendu, Florence.
Oui, en l'absence de Félix Tshisekedi, il n'y a pas eu de face-à-face avec Paul Kagame, mais les échanges n'ont pas été moins vifs. C'était électrique, témoigne un participant. Il faut dire que le conseil s'est ouvert au moment même où l'AFC M23 réalisait une nouvelle percée dans le sud Kivu, appuyée par le Rwanda. Signe de cette tension qui régnait en ouverture du conseil, le président de la commission de l'Union africaine n'a pas dit un mot sur la RDC. Plusieurs chefs d'État ont également quitté la rencontre un peu avant la fin, notamment le président Kagame et le médiateur angolais João Lourenço. Tous deux s'étaient déjà isolés pendant la réunion pour un long aparté. Parmi les questions litigieuses, celle de la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, la RDC une nouvelle fois a plaidé pour que Kigali soit explicitement indexé et condamné pour son rôle dans ce conflit. Plusieurs pays d'Afrique australe ont abondé dans ce sens, notamment le Zimbabwe, mais sans faire consensus. Le communiqué final devrait donc s'aligner sur les conclusions du sommet de Dar es Salaam, sans aller plus loin, c'est-à-dire appel à un cessez-le-feu au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, reprise d'un dialogue direct entre toutes les parties et fusion des processus de Luanda et de Nairobi sans mention du Rwanda.
Florence Maurice en direct d'Addis Abeba.
Afrique Soir sur RFI.
Avec tout de suite un mot du processus électoral qui conduira à l'élection présidentielle prévue le 12 août prochain au Gabon. Réuni en Conseil des ministres jeudi, le gouvernement a adopté une série de décrets dans le cadre de l'organisation de ce scrutin. À Libreville, les précisions d'Yves Laurent Goma.
Selon le communiqué du gouvernement, les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur déclaration de candidature d'ici moins de 3 semaines, du 27 février au 8 mars prochain. Le texte ne le dit pas, mais selon le code électoral, les frais de candidature qui étaient à 20 millions sont passés à 30 millions de francs CFA. La campagne électorale se déroulera durant 14 jours seulement. Elle s'ouvrira le 29 mars et prendra fin le 11 avril, soit un jour avant le vote prévu le 12 avril. Chaque candidat doit déposer à la Cour des comptes son budget de campagne qui prévoit toutes les dépenses à effectuer durant la période. Aucun plafond n'a été fixé. Cette disposition n'existait pas sous l'ancien régime. Autre nouveauté, tous les candidats seront sur une liste unique. Durant des décennies, l'opposition réclamait à corps et à cri ce bulletin unique, mais le pouvoir ne l'avait jamais accepté. À ce jour, aucun poids lourd de la vie politique ne s'est encore porté candidat à cette élection. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Au Burkina Faso, une dizaine de volontaires pour la défense de la patrie tués il y a 2 jours dans une attaque qui a visé la localité de Tiendougou dans l'Ouest. Selon une source locale, des hommes lourdement armés ont attaqué une patrouille des forces burkinabées en provenance de Banfora. Aujourd'hui, d'autres attaques ont visé les villes de Djibo dans la région du Sahel et à Tanwalbougou dans l'Est. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible et toujours pas de revendication. Il y a 2 jours, ces hommes armés avaient déjà tué 6 gendarmes. En Côte d'Ivoire, la Cour d'appel a confirmé ce vendredi après-midi la condamnation à perpétuité pour 4 personnes impliquées dans l'attentat terroriste survenu dans la station balnéaire de Grand Bassam en mars 2016. Attentat qui avait coûté la vie à 19 personnes. Les 4 accusés ont été condamnés pour complicité d'assassinat et complicité d'actes terroristes. Compte rendu d'audience, Bintadiaï.
La cour d'appel a suivi les réquisitions du parquet. Elle acquitte les accusés concernant la détention d'armes de guerre, mais elle confirme les autres charges, à savoir complicité d'actes terroristes et complicité d'assassinat. La cour d'appel confirme la condamnation à une peine de prison à vie pour les 4 accusés. Il y a là un chauffeur, une personne ayant hébergé le cerveau de l'attentat et 2 personnes accusées d'avoir aidé au repérage des lieux et au convoyage des armes. À l'énoncé de ce verdict, les 4 accusés étaient effondrés. « Je ne suis pas un terroriste », a crié l'un d'eux au moment de quitter le tribunal sous escorte policière. Leur avocate, Maître Térémé Diaby, estime qu'il n'a pas été prouvé que ses clients avaient connaissance du projet d'attentat fomenté par Kunta Dalla, le cerveau de cette opération, lors de leur prise de contact. La défense a l'intention de se pourvoir en cassation. Quant aux parties civiles, elles expriment leur soulagement. Maître Amadou Camara demande à l'État de se porter garant et de trouver les fonds nécessaires pour indemniser les victimes des attentats terroristes. En effet, en première instance, le tribunal avait établi entre 10 et 30 millions de francs CFA le montant des réparations à verser à chaque victime, mais ces fonds ne sont pas disponibles, déplore l'avocat des parties civiles. Bintadiane Abidjan, RFI.
Surpopulation dramatique et inhumaine dans les prisons sénégalaises. Voilà le constat fait par la procureure, la rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture, Alice Jill Edwards, après une visite d'une dizaine de jours dans le pays. Elle appelle les autorités à prendre d'urgence des mesures pour garantir des conditions de détention dignes. À Dakar, les précisions de Léalisa Vesteroff.
Des chambres extrêmement encombrées où les détenus dorment tête bêche, voire à tour de rôle dans les couloirs. Le tableau dressé par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la torture est alarmant. Après s'être rendue dans 5 prisons du Sénégal, Alice Jill Edwards parle de conditions de détention inhumaines où les rations alimentaires par détenus sont quelquefois réduites pour réussir à nourrir tout le monde. La rapporteure dénonce une poudrière, je cite, qui pourrait exploser à tout moment, entraîner des émeutes, des violences ou encore la propagation rapide de maladies infectieuses. Face à ce constat, elle appelle les autorités sénégalaises à prendre des mesures de toute urgence pour alléger la pression sur le système pénitentiaire et garantir des conditions de détention dignes. À l'issue de sa visite au Sénégal, Alice Jill Edwards s'est aussi prononcée en faveur de l'abrogation de la loi d'amnistie, votée en mars dans les tout derniers jours du régime de Macky Sall. Ce texte de loi amnistie tous les faits survenus entre 2021 et 2024 lors des manifestations de l'opposition qui ont fait 79 morts. Les nouvelles autorités ont promis de l'abroger. Léalisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Au Bénin, selon des sources bien informées, l'homme d'affaires Olivier Bocco et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki n'ont pas fait appel de leur condamnation prononcée fin janvier à 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Ils disposaient effectivement de 15 jours pour faire appel. Le délai a expiré ce vendredi. Et puis le ministre des Affaires étrangères du Bénin a reçu ce vendredi pendant une demi-heure l'ambassadeur du Bénin au Niger, rappelé pour consultation. Gildas Agonkan avait tenu début février à Gaise, au Niger, des propos qui ont fortement déplu aux autorités béninoises. Il a demandé pardon au peuple nigérien dans un contexte de crise entre les deux pays. On ignore si le dossier va en rester là ou s'il sera relevé de ses fonctions. En tout cas, de bonnes sources, jusqu'à vendredi soir, ce vendredi soir, aucune décision n'avait encore été prise. Au Niger, justement, les assises nationales débutent samedi à Niamey pour 5 jours. Un événement annoncé il y a moins d'une semaine par les autorités militaires. Une commission a été mise sur pied pour préparer les travaux. Commission dirigée par Mamoudou Haruna Dingarey, chef du canton de Sender, dans la région de Tillabéri. Près de 700 participants sont annoncés, mais certains, à l'image de l'Ordre des avocats, ont fait savoir qu'ils n'y participeraient pas. Explication, Eva Massy.
Gouverneur, préfet, chef de canton, leader religieux, représentant de la société civile, 674 personnes de tout horizon ont été invitées à participer à cet événement organisé durant 5 jours au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Parmi elles, 3 anciens présidents nigériens, Mahamadou Issoufou, Salou Djibo et Mahamane Ousmane. Seront-ils présents ? La question reste en suspens. L'Ordre des avocats a prévenu mercredi qu'il ne participerait pas à ce rendez-vous, dont les partis politiques, suspendus depuis fin juillet 2023, seront les grands absents. Les travaux de ces assises devraient s'appuyer sur les réunions de concertation menées début 2024 dans les 8 régions du pays. Les discussions tourneront autour de 5 grandes thématiques comme paix, sécurité et réconciliation ou refondation politique et institutionnelle. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées et un avant-projet de charte de la transition sera rédigé. La durée de la transition pourrait ainsi être fixée. En août 2023, le général Tiani avait annoncé que ladite transition ne durerait pas plus de 3 ans. À l'époque, il avait également promis d'organiser rapidement un dialogue national inclusif, un dialogue qui ne voit finalement le jour que 18 mois plus tard.
Au Nigeria, 23 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation à Kano. Un camion transportant des passagers et des marchandises s'est renversé dans un passage souterrain. Selon le porte-parole du Corps fédéral de sécurité routière, le conducteur en excès de vitesse a perdu le contrôle du véhicule. En Guinée, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme de Nzéré Koré a publié ce matin son rapport d'enquête sur la tragédie survenue le 1er décembre dans le plus grand stade de la capitale de la région forestière. Une bousculade, en effet, meurtrière lors de la finale d'un tournoi de foot organisé à la gloire du président de transition, Mamadi Doumbouya. 56 morts selon le bilan officiel, au moins 3 fois plus selon le collectif des ONG qui pointe une volonté de dissimuler la vérité. Le récit de Sidi Yansané.
Dans leur rapport de 44 pages, les défenseurs des droits humains de Zérékoré soulignent d'emblée une responsabilité de l'État à tous les niveaux, du président de la délégation spéciale au secrétariat de la présidence, en passant par les ministres, les préfets et les forces de l'ordre. Le stade était archi-comble, au-delà de ses capacités d'accueil, plus de 10 000 spectateurs pour une sécurité très insuffisante, dit le rapport. Des véhicules déployés dans la région pour transporter gratuitement les supporters, généralement mineurs, des rumeurs attestant que le célèbre artiste Grand P et le général Doumbouya lui-même seront présents, le tout pour un seul objectif, que le monde entier voit que le président Doumbouya est plébiscité, rapporte le document, témoignages, photos et vidéos à l'appui. Mais les organisations déplorent surtout la totale opacité des investigations menées par le gouvernement, qui n'a jamais communiqué depuis la mise en place d'une commission d'enquête. Gouverneur, préfet, mairie, gendarmerie, police, procureur, tous se renvoient la balle. Le rapport affirme aussi que des autorités religieuses et administratives ont encouragé des familles à ne pas se faire enregistrer comme victimes, ni même communiquer sur la tragédie et de s'en remettre à Dieu.
Et joint par RFI, le procureur général de la cour d'appel de Cancan a affirmé que c'est au ministre de la Justice de s'exprimer sur le sujet. RFI a donc tenté de joindre sans succès le garde des Sceaux et le ministre des Sports. En attendant, je rappelle que le premier bilan provisoire des autorités n'a pas évolué depuis le 2 décembre. Il est toujours de 56 morts. Le rapport d'enquête des ONG de la région forestière parle, lui, de 140 morts. Maître Christophe Labilé-Conné est le membre d'Avocats sans frontières. Il est l'un des auteurs de ce rapport. Il était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr.
Bien sûr que oui, il pourrait y en avoir d'un avantage, plus de morts, mais nous n'avons pas d'informations précises sur ces éventuels cas. Voilà pourquoi nous nous focalisons sur les 140 morts dont on a toutes les informations.
Vous dénombrez également 11 disparus. Comment expliquez-vous qu'on n'ait pas retrouvé les corps?
Bon, ça va être un peu difficile d'expliquer parce que quand il y a eu la tragédie, la plupart des personnes décédées ont été transportées à l'hôpital régional des Zérékoré qui avait une capacité quand même limitée. Des sources concordantes, il nous a été dit aussi que d'autres corps avaient été conduits dans le camp militaire de Zérékoré. Mais quand les enquêteurs étaient sur le terrain, il ne leur a pas été permis de vérifier les corps qui ont été envoyés sur le camp militaire. Et nous parlons de disparus parce qu'il y a des parents des victimes qui, à ce jour, n'ont encore pas vu leur enfant, alors qu'ils étaient partis au terrain. Et les enquêteurs ont dénombré 11. Il pourrait y avoir aussi plus, mais c'est les 11 qui ont été dénombrés. Bon, donc, si ces personnes-là n'ont pas été trouvées parmi les blessés, parmi les morts, c'est qu'ils sont portés disparus pour l'instant.
Mais ils seraient où, ces corps?
Nous n'avons pas d'informations, d'autant plus que les corps qui avaient été envoyés, comme je le disais tantôt, au camp militaire, n'ont pas été identifiés.
Alors, votre enquête a été difficile. Aucun organisateur ou officiel n'a voulu vous parler. Y a-t-il, selon vous, volonté de dissimuler la vérité?
Oui. Il y a volonté, bien entendu, de dissimuler parce que nos enquêteurs, quand même, ont voulu rencontrer toutes les parties prenantes, y compris les organisateurs et les autorités administratives et militaires. Mais ils se sont focalisés pour ainsi dire aux enquêteurs qu'il y a une enquête qui a été ouverte, donc il fallait se contenir au résultat de cette enquête, qui, on ne voit pas venir les conclusions.
Et pourquoi cette omerta, selon vous? Dans quel but dissimuler la vérité?
Bon, bien évidemment, c'est que on ne veut pas faire connaître la réalité parce que ce qui est arrivé pendant la finale de ce tournoi-là, comme nous le qualifions, c'est une tragédie. On ne veut pas faire montrer à l'opinion nationale et internationale ce qui est réellement arrivé. Mais nous déplorons quand même cet état de fait parce que pour ne pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faudrait mener une enquête sérieuse pour qu'on puisse circonscrire ce qui est arrivé et enfin de prévenir à l'avenir quand on aura des organisations à faire dans la région ou dans les régions environnantes.
Pour que plus jamais un tel drame ne se produise.
Bien sûr, ça c'est l'importance de notre enquête. Et en plus, il faudrait aussi que ceux qui ont commis de près ou de loin quelques infractions puissent répondre de leurs faits.
Maître Christophe Labilé-Conné de l'organisation Avocats sans frontières au micro de Nicolas Sûr. Au Soudan, le plus grand camp de déplacés du Darfour Nord est de nouveau la cible d'intenses bombardements d'artillerie. Déjà frappé l'an dernier, le camp de Zamzam est en proie à une nouvelle escalade de violence. Les forces de soutien rapide sont accusées d'y avoir déployé des combattants. Mardi et mercredi, de violents affrontements entre les FSR de l'armée soudanaise ont fait de nombreux blessés et plusieurs morts dans le camp. Médecins sans frontières se dit préoccupé par la situation. Le personnel de l'organisation l'organisation reçoit des blessés mais ne peut pas les soigner. L'hôpital le plus proche est en effet à 15 km au sud-est, au sud d'El Fasher. Il est inaccessible à cause des combats. Michel Lacharité est le responsable des opérations d'urgence pour Médecins Sans Frontières.
Le camp est complètement encerclé par les forces de soutien rapide et les civils n'ont nulle part où aller. Certains ont décidé de fuir par les moyens qu'ils pouvaient, certains ont rejoint quelques villages, mais c'est vraiment une infime minorité de personnes qui arrivent à bouger. Les combats ont détruit une partie des systèmes d'eau qui permettaient que les populations puissent boire, donc tout le système d'eau qui était au nord a été détruit. Et il faut savoir que les combats se sont concentrés sur Zamzam, mais il y a aussi d'autres combats dans des villages à proximité qui a provoqué un nouvel afflux aussi de déplacés vers Zamzam. Donc si on combine une partie du camp qui a brûlé, de nouvelles personnes qui arrivent sur le camp, on se retrouve avec une densité de population un peu plus importante, au même moment où il y a une pénurie ou destruction des systèmes d'eau, et on ne parle pas non plus de l'accès à la nourriture, qui depuis des mois est extrêmement précaire, donc la situation ne fait que se dégrader. Donc Médecins Sans Frontières, on demande que les civils puissent se diriger là où elles le souhaitent, sans qu'elles soient attaquées par les forces de soutien rapide, et bien sûr, il faudrait restaurer l'accès humanitaire à la ville de El Fasher et au camp de Zamzam.
Un propos recueilli par Christina Okello. Et puis en basket, début d'un week-end de gala aux États-Unis. Comme chaque année, la NBA organise son All-Star Game, un match qui oppose les meilleurs joueurs de la prestigieuse ligue américaine. Il aura lieu dimanche. En attendant, ce soir sur le parquet, les meilleurs jeunes du championnat. Yves Missi devait y participer, mais le Camerounais a déclaré forfait. Victor Missistrano.
Sa sélection sonnait comme une évidence et devait récompenser ses excellents débuts en NBA. Yves Missi doit finalement renoncer. Blessure sans gravité, mais cette hyperextension du genou subie hier lors du match des Pelicans contre Sacramento prive le Camerounais du Rising Star Challenge. Il se faisait un plaisir d'y participer. À 20 ans, le rookie ou joueur dont c'est la première saison s'affirme comme l'un des tout meilleurs de sa promotion. Arrivé l'été dernier à la Nouvelle-Orléans, le pivot de 2m11, très aérien, a apporté sa dimension athlétique et a immédiatement décroché une place de titulaire. Yves Missi affiche des statistiques solides, plus de 8 points et 8 rebonds par match en moyenne. Avant sa sélection parmi les meilleurs jeunes, il s'était vu remettre le trophée de rookie du mois de décembre. Pas de All-Star Game donc, mais dès son retour au parquet, il va pouvoir se concentrer sur la fin de saison et s'il continue sur ses bonnes bases, Yves Missi pourrait devenir dans quelques mois le tout premier Africain élu rookie de l'année en NBA.
Victor Missistrano, RFI, 22h52, temps universel. Et place au deuxième volet de notre série sur l'épidémie de choléra qui touche le Soudan du Sud depuis octobre 2024. Immersion aujourd'hui dans le quartier de Djebel Timan à Djouba, à la rencontre d'une famille endeuillée par la mort de l'un de ses membres. Dans ce quartier de l'ouest de la capitale, l'épidémie est toujours présente malgré une campagne de vaccination, les efforts des autorités sanitaires et de l'ONG Médecins Sans Frontières pour informer la population. En cause, l'absence de système d'assainissement, l'accès quasi inexistant à l'eau potable, mais aussi la présence d'une immense déchetterie située en plein cœur de la zone résidentielle. Un reportage, Florence Pietto.
Accroché à une colline rocailleuse, le quartier de Djebel Timan est peuplé de maisons en bambou et en torchis. Des habitations à étages se dressent aussi ça et là, inachevées, dans ce quartier qui reste l'un des plus sous-développés de la capitale sud-soudanaise. Un quartier toujours en proie à l'épidémie de choléra. En janvier, Albino Diari Warnyang, le pasteur de la communauté, a brutalement perdu son frère de 75 ans à cause de la maladie.
C'est arrivé le 13 janvier. Il a commencé à être malade à 4 heures du matin et il est mort le même jour à 15 heures. Nous l'avons emmené dans une clinique à 6 heures du matin et lui ont donné 7 perfusions d'affilée. Puis le docteur nous a dit de le ramener à la maison pour qu'il se repose. Mais une fois qu'on est arrivé chez nous, il est mort.
Une campagne de vaccination s'est déroulée fin janvier dans la communauté et la famille proche d'Albino Diari Warnyang a été vaccinée. Mais le pasteur reste inquiet.
Nous restons vigilants car le choléra est toujours parmi nous. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Si personne ne sait exactement comment le choléra est arrivé jusqu'ici, les premières victimes ont été rapportées parmi les nombreux récupérateurs de déchets qui survivent en fouillant dans l'immense décharge située en plein cœur de Djebel Timan. 3 d'entre eux sont morts au mois de décembre. Mathieu Boya, le chef traditionnel du quartier, souhaite la fermeture de ce site.
Les quartiers de Djouba qui n'ont pas de déchetterie n'ont pas eu autant de cas de choléra. Mais nous, ici, nous avons eu beaucoup de cas et des gens sont morts. Hier encore, un homme a dû être emmené au centre de traitement du choléra de Gouréi.
Il est d'autant plus difficile de contenir l'épidémie qu'il n'y a aucun système d'assainissement à Djebel Timane et un seul puits d'eau potable payant pour plus de 6000 personnes. L'immense majorité des habitants boit l'eau de puits creusée dans la terre, comme celui que nous montre Justin Passy Major, un voisin. Une sorte de flaque d'eau profonde entourée de pierres et d'herbes au bord de laquelle traînent des bouteilles en plastique.
L'eau elle-même est propre, mais si par exemple des chèvres viennent boire ici, elles peuvent contaminer l'eau avec des bactéries. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière autour du puits. Mais si on pouvait en construire une, creuser plus profond et utiliser du chlore, alors on serait protégé.
Les appels de la communauté pour la construction de nouveaux puits, de latrines ainsi que pour la fermeture de la déchetterie sont pour l'instant restés sans réponse. Florence Mieto, Djouba, RFI.
RFI à Djouba où il est actuellement minuit et bientôt 56 minutes. Direction le Cameroun, où l'artiste Salaciel célèbre ses 10 ans de carrière avec un concert géant au stade Molico de Bouéa, dans le sud-ouest. Des artistes de renom comme Loco ou encore Renew l'accompagnent sur scène. En 10 ans de carrière, Salaciel a sorti 3 albums et plusieurs hits, dont Anita. C'est un sujet signé Richard Nanena.
Et pourquoi la vie était si compliquée?
Anita, sortie en 2019, visionnée plus de 16 millions de fois sur YouTube, va sonner différemment ce soir au stade Molico de Bouéa, où Salaciel célèbre ses 10 ans en ce jour dédié à l'amour.
En 10 ans, je dirais, on a grandi, on a évolué, on a appris.
Salaciel définit ses 10 ans de carrière comme une période d'apprentissage, tant dans sa vie d'artiste que personnelle. En 10 ans, il est devenu papa, un family man, comme le titre de son album, le 3e, sorti l'an dernier.
En 10 ans, j'ai eu des enfants. Je pense que ce processus de maturation, c'est ça qui a changé. Et les 10 ans qui arrivent seront 10 ans de beaucoup d'expérience.
À Salaciel, le public a donné le surnom de Highman Général, car le chanteur est à la base un producteur reconnu qui a participé à l'émergence de plusieurs stars locales et continentales, à l'instar de Daphné et Mister Leo.
Je suis honoré même d'être ce vase par lequel quelque chose de positif peut se transférer à la société. Il y a des enfants aujourd'hui qui font la musique parce qu'ils nous ont vu évoluer.
Le choix de Bouéa pour ses 10 ans de carrière n'est pas anodin, puisque c'est dans cette ville que tout a commencé pour lui. Salaciel veut également être une voix pour la paix dans une région où sévit la crise anglophone. Et pourquoi pas rapprocher les peuples par sa musique. Jaona Nena, Yaoundé, RFI.
Mes sentiments n'ont pas changé, et ton sourire n'a même pas fané. On se regarde dans les yeux, mais qui agira le premier?
Viens, sors mon éminga, moi je veux te parler. Comme si c'est un bas bébé. Si ça moule ma ébole, pas ni nwenge. Longue dit bois ni nwenge.
Ça mon éding, tu peux pas t'en aller. Comme, la son a dit quoi l'est. Tout ça moule ma ébole, pas ni nwenge. Oh oh.
For old, my baby, why you wanna go?
Casanova, my lover.
As now you she done for throne. Girl, you don't make me catch you go. My baby, come closer. Bring body for you, come closer. Pull up for me, come closer. Close, come closer. Ah, my baby, come closer. No need me for you. Qui m'a touché, touché. Mes noms, cheveux collés, serrés. Tu peux pas me plaquer, ouais. Fallait pas m'allumer, yeah, yeah.
C'est toi qui m'as chauffé, chauffé. Tu peux pas me quitter, ouais. Fallait pas commencer. Tu peux pas me laisser.
I'm gonna see what you
but I need you back. Stay by your side whenever you were down, even in the middle of the night.
Voilà, c'est au Cameroun que s'achève cette édition d'Afrique Soir avec Anita de l'artiste Salaciel. Afrique Soir a été réalisé ce soir par Arthur Bon, rédacteur en chef Ezra Sindikman, assisté de Simon Huilbaudin. Dans 10 secondes, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.